Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
À la une de l'actualité de ce jeudi 11 avril 2024, le Premier ministre Anthony Albanese confirme, après des propos tenus par sa ministre des Affaires étrangères plus tôt cette semaine, que son gouvernement réfléchit à la reconnaissance d'un État palestinien. À Bruxelles, hier, le Parlement européen a adopté un nouveau pacte sur l'asile et l'immigration. Enfin, en France, Emmanuel Macron doit se rendre aujourd'hui en Dordogne pour poser la première pierre d'une usine d'explosifs, mais également parler d'économie de guerre. Penny Wong, la ministre australienne des Affaires étrangères, a provoqué un séisme il y a quelques jours en suggérant que Canberra pourrait reconnaître un État palestinien, une démarche qui, selon elle, est la seule qui permettrait de mettre fin au cycle des violences au Proche-Orient. Une prise de parole qui, sans surprise, a immédiatement été critiquée par le leader de l'opposition, Peter Dutton, qui a estimé qu'un tel mouvement reviendrait à récompenser les leaders du Hamas suite aux attaques perpétrées le 7 octobre, au cours desquelles, rappelons-le, plus de 1200 personnes ont été tuées et 240 autres prises en otage. Mais la chef de la diplomatie australienne a reçu aujourd'hui le soutien de son premier ministre, Anthony Albanese, qui a confirmé que son gouvernement envisageait sérieusement de reconnaître la Palestine en tant qu'État à part entière. Ceci étant dit, il a expliqué sur Channel 7 que pour cela, il faudrait que le Hamas ne fasse pas partie du gouvernement d'un potentiel État palestinien.
There needs to be a two-state solution to in the Middle East. That's something that's been Australia's long-standing policy, and it's something I've been very consistent on for a long period of time. But Hamas can play no role in a future state. And we've made that very clear.
Et puis, il y a quelques minutes, Anthony Albanese a prononcé depuis Brisbane un discours au cours duquel il a présenté un projet de loi baptisé « A Future Made in Australia », un futur fait en Australie, destiné à renforcer les investissements dans l'économie verte, notamment dans les énergies renouvelables, mais aussi l'extraction de métaux et de minerais nécessaires pour décarboner l'économie. En amont de ce discours, l'opposition a indiqué par la voix d'Angus Taylor sur Channel 9 qu'elle était favorable au principe d'une telle politique, mais qu'elle intervenait selon elle au mauvais moment, en l'occurrence en plein milieu d'une crise du pouvoir d'achat.
You don't beat a cost of living crisis. You don't address a cost of living crisis by throwing hard-earned taxpayers' money around. And that's exactly what Albanese is proposing here. We haven't seen any of the details, I should say, and we'll look at those closely as they come in.
Une lueur d'espoir pour le fondateur australien de WikiLeaks, Julian Assange, à propos de qui le président américain Joe Biden a fait savoir qu'il réfléchissait à un possible abandon des poursuites à son encontre. Rappelons que les États-Unis souhaitent le traduire en justice pour espionnage et que Julian Assange risque là-bas jusqu'à 175 ans de prison. Anthony Albanese, qui a plusieurs fois plaidé la cause de Julian Assange auprès de Joe Biden, a indiqué que ce changement de posture à Washington était, je cite, « encourageant ». À Bruxelles, le Parlement européen a adopté hier un nouveau pacte sur l'asile et l'immigration, un pacte dont se félicitent les deux pays les plus exposés aux arrivées de migrants par la Méditerranée, l'Italie et la Grèce. Mais ce pacte, parmi les 27, est pourtant loin de faire l'unanimité. Explication du correspondant de RFI à Bruxelles, Pierre Benazet.
Les députés européens ont finalement donné leur feu vert à ce nouveau pacte sur l'asile et la migration, mais c'était de justesse. Il y a eu 10 votes, car cette réforme très complète a été divisée en 10 chapitres. Et sur 2 votes, la majorité a été très courte, une trentaine de voix sur plus de 700 députés. Il faut dire que cette réforme va beaucoup durcir les conditions d'entrée en Europe pour les migrants. Ils étaient 380 000 à entrer illégalement en Europe l'an dernier. Et avec ces nouveaux règlements, les contrôles vont être renforcés. Par exemple, il y aura un fichier pour les empreintes digitales ou encore un renvoi plus facile des migrants vers leur pays d'origine. En échange de ce durcissement, les pays du sud de l'Europe ont obtenu la solidarité, c'est-à-dire que si beaucoup de migrants arrivent en même temps dans un pays, les autres seront obligés d'aider, soit en accueillant des migrants, soit avec de l'argent. Toutes les nouvelles lois vont devoir être approuvées par les 27 pays de l'Union européenne, mais c'est une formalité. Ensuite, ces règlements devront être appliqués 2 ans plus tard. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Au Guatemala, le président vient d'adopter un arrêté de catastrophe naturelle et ce alors que 44 feux de forêt ravagent actuellement ce petit pays d'Amérique centrale. Les écoles situées dans le centre du pays, le plus exposé à ces feux, ont par ailleurs été fermées pour éviter aux élèves d'inhaler de la fumée. D'après le président Bernardo Arevalo, la plupart de ces feux auraient été déclenchés par la main de l'homme.
It is important to point out that the current situation is not a coincidence, since according to information that the National Coordination for Disaster Reduction has gathered, 80% of the fires have been provoked.
Direction l'Afrique, plus précisément le Mali, où le pouvoir est entre les mains d'une junte militaire depuis le coup d'État du 28 mai 2021. Et les partis et les associations politiques, on vient de l'apprendre, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. C'est ce que vient d'annoncer le gouvernement qui justifie sa décision par des raisons politiques et sécuritaires. Depuis Dakar, les précisions de Serge Daniel pour RFI.
Lors d'un point de presse, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement, a expliqué que la dernière reprise de la ville malienne de Kidal des mains des ex-rebelles, ainsi que d'autres localités, ne signifie pas la fin du terrorisme, la fin des questions de sécurité. Il y a, poursuit-il, d'autres défis sécuritaires à relever, alors qu'au même moment, la classe politique malienne mène, je cite, des débats stériles. Fin de citation. Le ministre fait référence aux voix politiques locales de plus en plus nombreuses et audibles, qui affirment que la période de transition a pris fin depuis le 26 mars dernier et qu'il faut un retour rapide à l'ordre constitutionnel. La junte malienne balaie du revers de la main cet argument et avance une autre raison pour justifier la mesure de suspension des activités des partis et associations politiques. La nécessité, selon elle, d'instaurer un climat de sérénité au moment où un dialogue national intermalien est annoncé pour aborder les problèmes du pays. Serge Daniel, Dakar, RFI.
En France, le président Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui en Dordogne, dans le sud-ouest du pays, pour visiter l'usine d'Eurenco à Bergerac, une usine chimique spécialisée dans la production de poudre. Le chef de l'État doit y poser la première pierre de la future usine du leader européen des explosifs. Il parlera également à cette occasion d'économie de guerre et de souveraineté française en matière de défense. Charlotte Urien-Tomaca pour RFI nous présente les enjeux de ce déplacement.
Un déplacement dans un lieu qui n'a pas été choisi au hasard, un site emblématique à la convergence de plusieurs chantiers nationaux, réindustrialisation, économie de guerre, effort d'armement de la France en soutien à l'Ukraine, explique-t-on du côté de l'Élysée. La société Eurenco va relancer la production de poudre pour propulser des obus, comme ceux des canons César livrés à l'Ukraine sur son site de Bergerac, avec une nouvelle usine qui verra le jour en 2025. Le président de la République a prévu de visiter les lignes de production existantes avant de se rendre sur le chantier et d'en poser la première pierre. Une séance de travail avec des PDG d'industrie d'armement française est ensuite prévue à l'agenda pour faire le point sur l'état d'avancement des entreprises sur l'économie de guerre et évoquer la suite des transformations à adopter dans le contexte géostratégique actuel. La dernière réunion de ce type remonte au mois de mars 2023. En raison de la forte demande pour la poudre et les explosifs liés notamment à la guerre en Ukraine, l'usine produira 1,2 million de charges modulaires en 2026 contre 500 000 actuellement. Eurenco, qui employait 200 personnes en 2022 avant le début de la guerre en Ukraine, devrait passer à 450 personnes à terme qui participeront activement à l'économie de guerre française.
C'était Charlotte Urien-Tomaca pour RFI. Et puis pour conclure ce bulletin d'information, un petit point rapide sur la météo de ce jeudi en Australie. Du soleil à Sydney où il fait 23 degrés, 18 degrés à Melbourne, 29 à Perth, 22 à Adelaide, 27 degrés à Brisbane et jusqu'à 34 degrés aujourd'hui à Darwin.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur
facebook.com/sbsfrench.